Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être venu aussi nombreux accueillir avec nous Sylvain Tesson, qui est venu nous présenter son dernier livre. Je ne sais pas si faut continuer à vous présenter, parce que vous êtes la preuve assez connue, vu le nombre de personnes qu'il y a dans cette salle. On va quand même rappeler que vous aviez obtenu donc en 2009 le prix Goncourt de la Nouvelle pour Une vie accouchée dehors. Et le premier Médicis de l'essai en 2011 pour Dans les forêts de Sibérie. Et vous êtes venu donc dans cette salle chez nous en 2014 pour S'abandonner à vivre. Depuis, vous êtes arrivé une très grosse mésaventure et qui est d'ailleurs le départ peut-être de votre nouveau livre sur les chemins noirs, toujours publié chez Gallimard. Si vous me permettez, la première question, c'est vrai que c'est un sujet quand même assez inévitable. Dans l'avant-propos de Sur les chemins noirs, vous parlez de bon augure qui vous a suivi longtemps dans votre vie jusqu'à cet accident qui vous est arrivé. Vous parlez de la bonne augure qui s'est penchée presque sur vous et sur votre famille comme des fées dans un conte de fées. Et qu'à un moment, tout ça, c'était terminé. Est-ce que vous avez l'impression donc que cet accident, c'était une sorte de fatalité?
Alors, bonjour à vous tous. Vous avez raison, je commence ce récit de voyage sur les chemins noirs en me souvenant d'un certain climat qui flottait sur l'enfance, sur ma famille, et puis qui tout à coup, en l'espace de quelques mois, peu après d'ailleurs mon passage ici, non
Oui,
pas
c'est vrai.
que j'émette le moindre lien de causalité. Je veux dire, c'est pas parce qu'on vient parler un jour à la librairie Mola qu'ensuite les nuages s'amoncellent dans l'existence. C'est pas du tout ce que je veux dire. On n'est pas en train de faire de l'astrologie de comptoir. Et d'ailleurs, il faut jamais rien faire sur les comptoirs, parce que Dieu sait où vous mènent les comptoirs. Non, mais vous avez raison de rappeler cela, parce que tout d'un coup, il y a eu une sorte de précipitation malheureuse d'événements qui ont fait que tout ce climat, cette atmosphère très favorable, très agréable en fait, d'existence s'est subitement renversée. Et puis des événements assez malheureux se sont précipités. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit que c'est extrêmement ordinaire et banal, quoi. C'est tout simplement, tout à coup, on a l'impression que les mauvaises fées viennent remplacer les bonnes. Voilà, ça arrive dans les contes, dans les fables. C'est quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on peut lire parfois dans les légendes médiévales, d'ailleurs. Et puis voilà, c'est tout. Ça s'appelle des coups du sort. Alors on s'en relève ou pas. Ben, moi, j'ai eu la chance de m'en relever.
Alors pour rappeler un petit peu ce qui vous a amené à écrire sur les chemins noirs, donc un long voyage à travers la France, un pays à vrai dire dans lequel vous n'aviez jamais vraiment marché, en tout cas, puisque vous êtes surtout, on vous a toujours surtout connu en Russie, le coup. Qu'est-ce qui vous a donné justement envie de découvrir la France et surtout cette partie de la France, enfin cette diagonale, on va dire?
Alors, c'est plusieurs choses. Donc, le coup du sort auquel on vient de faire référence l'un et l'autre à l'instant, c'était un accident. Je suis tombé d'un toit, j'ai été très très accidenté, très très fracassé même. Et sur mon lit d'hôpital, pendant des mois, je me suis fait une sorte de serment en me disant, si jamais je m'en sors et que je reconquiers un peu mes forces, je ferai la traversée de la France à pied. Voilà, ce genre de serment qu'on se lance quand on est un peu jeté devant des perspectives pas très favorables. Il n'était même pas sûr que je marchât. Alors je m'étais dit que si jamais j'arrivais à reconquérir l'usage de mes jambes, c'était certain, je tracerais une diagonale. Ça, c'est la première chose, un serment. Moi, j'ai fait beaucoup de serments dans ma vie, je tenais jamais mes promesses. Alors celui-là, je me suis dit que j'allais le tenir, ce serment-là. Ça me fait penser, d'ailleurs j'ouvre une parenthèse, à une phrase de Gustave Thibon dans L'illusion féconde, où Gustave Thibon dit que il faut tenir, c'est une formule que j'adore, il faut tenir, une fois dégrisé, ses serments d'ivrogne. Alors voilà, je me suis dit que celui-là, ce serment-là, j'allais le tenir. C'est une belle phrase. Et quand il dit ça, il parle des hommes politiques. On assiste en ce moment d'ailleurs à une superbe salve de serments pratiquement d'ivrogne auxquels sont en train de se livrer des hommes politiques. Et il faudra leur rappeler, une fois qu'ils seront dégrisés par les cotillons de la préélection, qu'il faut qu'ils, maintenant qu'ils les tiennent, leurs serments. Alors, voilà, moi j'ai tenu ce serment et je suis parti traverser la France. Ça, c'est la première explication et la première réponse à votre question. Et la deuxième, c'est que, à peu près au moment. Je vais arrêter de me tortiller. À peu près au moment où je sortais de l'hôpital, le gouvernement, encore lui, sortait un rapport qui a été rendu public sur l'hyperruralité. Vous voyez ce que c'est, quoi. C'était un rapport que les technocrates du gouvernement avaient longuement s'étaient penchés sur le territoire français et avaient identifié 40 bassins de vie hyperruraux. Puisque c'est comme ça qu'on dit dans la novlangue, c'est comme ça qu'on appelle les territoires. Ils avaient identifié 40 bassins de vie hyper-ruraux qui semblaient avoir besoin des secours de l'administration centrale parce qu'ils n'étaient pas assez desservis par les réseaux routiers, pas assez équipés par toutes les machins là du réseau Internet et pas assez polarisés par les équipements et les services administratifs. C'est ça qu'on appelle l'hyper-ruralité. Alors le rapport part évidemment d'une bonne intention. Il s'agit de prêter secours à des zones qui se sentent exclues de l'équité républicaine. C'est très bien. Il est normal quand on a un AVC, une apoplexie sur le plateau de l'Aubrac, ça semble justifier que le gouvernement veuille que les gens victimes de ce genre d'accident n'attendent pas, 4 jours avant d'être pris en charge par un centre hospitalier d'urgence. Le rapport part d'une bonne intention. Mais on sent bien que tout ça correspond à ces espèces de politiques de décentralisation, d'aménagement du territoire, d'urbanisation du pays, qui ont mené en l'espace de 5 décennies à la situation que nous connaissons, c'est-à-dire à un changement total du visage de la France, qui a amené tout de même à un enlaidissement du territoire. Loin de moi l'idée de me livrer un quart d'heure nostalgique, il faut toujours prendre ses précautions quand on commence à aborder ce genre de sujet pour ne pas avoir l'air d'un vieux gâteux. Loin de moi donc l'idée de vouloir dire que le paysage français était beaucoup plus beau avant la guerre, etc. Ce serait d'abord inutile de dire ça, et puis c'est une tellement vieille rengaine qu'on n'a plus tellement envie de l'entendre. Mais il se trouve quand même qu'en 5 décennies, il y a eu, sous le coup de l'urbanisation, de la décentralisation, de la productivité agricole, de l'urbanisation, des réseaux routiers, enfin de toutes ces politiques qui proviennent à la fois de la mondialisation et de l'Europe, il y a eu un changement du paysage français, avec notamment la disparition des paysans, le réseau routier qui s'était incroyablement développé, toutes ces zones d'activité commerciale et ces zones à urbaniser en priorité qui ont littéralement métastasé le territoire et qui font que ce périurbain dont parlent les géographes est venu peu à peu s'installer sur le territoire et est venu remplacer ce qu'on appelait autrefois la campagne. Alors moi, je suis parti de ce rapport, parce que vous allez me dire où veux-je en venir. Je suis parti de ce rapport et notamment des cartes qui étaient produites dans ce rapport, pour me dire que j'allais plonger dans cette hyper-ruralité et tracer un itinéraire qui va vous tracer une diagonale, grosso modo, du Mercantour au Cotentin en passant par le Massif central, suivre ces bassins de ruralité pour accomplir une marche à travers le pays, laquelle marche allait premièrement me permettre de connaître un pays que je ne connaissais pas, qui est le mien. C'était un peu idiot, mais je n'avais jamais voyagé en France. Deuxièmement, aller à la rencontre de ce peuple disparu qui s'appelle le peuple des paysans, mais qui est quand même le premier ouvrier de ce paysage français et qui ont disparu. C'est très bizarre psychiquement de vivre dans un pays qui a été façonné au mètre près par une population qui n'existe plus. C'est un peu comme quand vous voyagez dans un musée. Si on arpente les galeries d'un musée, sur les murs sont accrochés des tableaux qui ont été peints par des gens qui n'existent plus. Donc, quand on traverse le paysage français à pied, un paysage sans paysans, on traverse une galerie fantôme. Alors, c'était aussi l'objectif de ce voyage. Et puis, je voulais également, à travers cette diagonale dans le pays oublié, me retrouver musculairement et articulairement. Je voulais demander à la marche un certain nombre de ses bénéfices. Voilà les raisons qui m'ont poussé à prendre mes bâtons et à partir à pied un an après ma chute.
Alors justement, donc vous avez traversé, enfin emprunté les chemins noirs. Mais qu'est-ce que sont ces chemins noirs? Est-ce que c'est vous un terme que vous avez inventé ou est-ce que c'est vraiment, enfin est-ce qu'ils existent vraiment?
Alors, j'aurais bien aimé l'inventer, l'expression les chemins noirs, mais c'est pas moi, malheureusement. Il y a eu un écrivain, un très bel écrivain du sud de la France, du sud-est, pas votre sud à vous, pas du sud-ouest, un écrivain qui s'appelle René Frény, qui a écrit dans les années 60 un livre qui s'appelait Les chemins noirs et qui racontait la cavale d'un conscrit qui était en délicatesse avec l'autorité militaire. Donc l'expression est de lui. Mais l'acception, moi j'ai essayé d'y mettre ce que je voulais. Alors je vous explique ce que j'entends par chemin noir. Pour moi, les chemins noirs, c'est trois choses. C'est d'abord le chemin qui noir que vous voyez lorsque vous ouvrez une carte au 25 millième. La carte au 25 millième, vous savez ce que c'est? C'est cette carte de l'Institut géographique national qui était autrefois le dépôt des cartes militaires, qui a été créée à l'Ancien Régime, refondée sous Napoléon, et qui est devenue l'Institut géographique national avant la défaite de 1940. L'Institut géographique national produit une représentation au 25 millième de la totalité du territoire français. C'est un miracle. Il n'y a que la Suisse et la France qui bénéficient de ce miracle. D'avoir la totalité, l'intégralité du territoire reproduite, représentée au 25 millième. Or, le 25 millième, c'est une échelle bénie des dieux. C'est l'échelle où 250 mètres sont reproduits, représentés dans 1 centimètre. C'est donc une échelle de marcheur. C'est une échelle de piéton. C'est-à-dire que lorsque vous voyagez, vous pouvez regarder quasiment le déroulé de votre avancée sur la carte en temps réel. C'est magnifique. Vous pouvez voyager par la pensée en dépliant une carte au 25 millième. En plus, elles sont très belles. Elles ont toutes ces correspondances de couleurs, de formes, de reliefs. Il y a une convention qui veut qu'une l'ombrage des reliefs soit représentée avec une lumière qui, par convention, arriverait du nord-ouest et qui éclaire la carte, et enfin le relief représenté sur la carte par le nord-ouest, d'où les ombrages sur ces cartes. Alors voilà, dans ces cartes-là, il y a toutes les routes sont représentées, les nationales, les autoroutes, les rocades, les choses comme ça que je voulais à tout prix éviter. Et il y a un dessin représenté de manière extrêmement fine, des petits traits noirs qui correspondent à des pistes oubliées, à des chemins désertés par les paysans dont je viens de vous parler, des pistes rurales, des chemins forestiers, les pistes les plus ténues possibles, les chemins de traverse, souvent recouverts de broussailles, où parfois même les bêtes ne s'aventurent pas. Sur les légendes, dans le cartouche de légende de ces cartes, il est indiqué que ces chemins sont des chemins à la praticabilité non garantie. Ça c'est une expression, moi, qui me ravit, auquel parfois s'ajoute la terminaison ce sont des chemins à la continuité aléatoire. Je trouve ça très beau, parce qu'on dirait des expressions qui parlent de l'existence. Vous voyez, c'est la continuité aléatoire. On croirait un résumé de la vie. Alors, moi, je me suis intéressé à la représentation de ces chemins et je me disais, là, on peut aller sur ces chemins noirs. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur le terrain, ces chemins-là vous amènent dans l'ombre du pays. Ils vous permettent d'éviter, si vous voulez, pour peu que vous les suiviez en essayant de tracer toute votre diagonale du Mercantour au Cotentin, ce que j'ai essayé de faire en restant sur ces chemins noirs, vous voyez un pays qui n'est pas le pays sous le feu des projecteurs, qui est le pays caché, le pays perdu, le pays oublié, le pays silencieux, le pays derrière les haies, derrière les orées du bois, dans lequel sont justement vivent un peuple qui se tient sur les traverses. C'est ça qui m'intéressait. Alors quand en plus vous cherchez les chemins noirs dans l'hyper-ruralité, vous êtes dans l'ombre de l'ombre. Vous êtes véritablement derrière les remparts. C'est un peu ce qu'on appelait les contrescarpes dans les citadelles, ces chemins de ronde qui permettaient parfois de faire le tour des châteaux forts sans être jamais dans le donjon. Or, moi, c'était une entreprise de la dissimulation de moi-même que j'essayais de suivre. Et j'en viens au troisième point. Pour moi, les chemins noirs peuvent se prolonger hors de la carte et hors du territoire en nous-mêmes. Ce sont des chemins de vie, des chemins d'existence sur lesquels on peut mener sa vie et qui consistent à essayer de ne pas toujours être dans la transparence et l'exposition et le contact avec ses semblables. C'est une expression, finalement, les chemins noirs, que j'essaie d'appliquer à la tentative de, non pas de se replier au sens misanthropique du terme, mais de conserver une certaine part de solitude, de silence, comme vous savez, il y a une autre expression qui est le pas de côté. Le pas de côté, voilà, c'est le chemin noir sur lequel vous essayez de promener votre existence et le chemin qui vous emmène sur les côtés. Et c'est cette méditation-là que j'ai essayé de filer au cours de ma marche sur des chemins noirs qui étaient tangibles, et j'ai essayé de réfléchir à ces chemins noirs métaphoriques et symboliques qui sont les chemins intérieurs.
Oui, c'est vrai que vous en parlez au début, justement. Enfin, après votre passage à l'hôpital, ce qui est normal, vos proches ont voulu vous voir, mais vous avez été peut-être justement appelé par cette promesse de chemin, donc un chemin que vous avez entrepris, enfin, au début seul, et puis des amis ensuite sont venus vous accompagner, enfin, marcher avec vous. Donc vous commencez votre marche. Là, elle commence au sud-est, à la frontière entre l'Italie, enfin, entre l'Italie et la France. Et pour ce que j'imagine, ce qui a dû vous sembler depuis une éternité, vous passez votre première nuit dehors. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette première nuit à la Belle Étoile?
Oui, ma première nuit dehors, c'était donc à la frontière italienne, au Mercantour. Je venais de marcher peut-être 4 ou 5 heures. Je me suis endormi à 2 000 mètres d'altitude, je crois, sur un petit col, à la Belle Étoile. Or, pour moi, les nuits à la Belle Étoile, c'est des nuits, enfin, c'est les nuits que j'aime par-dessus tout, c'est les nuits de luxe. Mais celle-là était très difficile pour moi parce que j'avais encore très mal au dos. Enfin, j'avais des tas de petits problèmes liés à mes mésaventures médicales, enfin de santé. Et du coup, je craignais beaucoup que cette nuit se passe mal pour ces raisons-là. Mais en l'occurrence, elle s'est passée très bien. J'ai réussi à bien dormir. À ceci près qu'au bout d'une demi-heure, j'ai été réveillé par des coups de feu. Et quasiment ininterrompu pendant toute la nuit, j'ai entendu des coups de feu. Et ça commençait donc assez mal. Je ne savais pas ce que c'était. Je me suis dit, c'est les carabiniers italiens qui viennent faire une manœuvre stratégique pour reprendre le Mercantour, je ne sais pas. Et en fait, non, c'était simplement des machines à gaz qui sont installées dans les alpages du Mercantour et qui produisent une détonation toutes les demi-heures pour éloigner les loups, lesquels sont revenus il y a une quarantaine d'années dans le Mercantour par les Abruzzes. Et ils ont suivi d'ailleurs en développant leur zone de répartition jusqu'au nord du massif central, ils ont suivi exactement la carte de l'hyper-ruralité avant le rapport. Ils sont pas fous. Ils ont compris qu'on était bien lorsqu'on était sur les chemins noirs et que l'homme étant un loup pour l'homme, il était aussi un loup pour le loup et qu'il fallait mieux rester discret. Alors voilà, c'est tout. Cette première nuit tombait assez mal parce que je rêvais de chemin noir, je rêvais de dissimulation, je rêvais de m'isoler. Et puis en fait, j'ai été dans cette détonation qui était comme les trois coups d'un théâtre qui me rappelait qu'il allait être très difficile de trouver les endroits de la dissimulation.
Il y a un passage au début de votre récit qui m'a fait rire parce qu'il est quelque part un peu absurde. C'est un moment où on imagine une scène qui aurait pu se passer bon, il y a des années, où en traversant la campagne, et pour gagner son gîte et son couvert, on propose à un fermier ou à quelqu'un de remplir des menus travaux. Et là, quelqu'un vous répond que ce n'est pas possible, puisque selon la législation, il ne peut pas vous faire un rabais pour le gîte et le couvert. Est-ce
Oui, voilà, c'est ça. Je demandais à dormir dans un gîte, mais c'était un gîte, je sais pas quoi, enfin, qui avait une appellation qui empêchait d'accueillir pour une nuit, de facturer une nuit à un individuel. Voilà, il fallait être en groupe. Enfin, c'était une espèce de. Enfin, je sais même plus ce que c'était, mais il y avait un problème administratif. Alors, ça aussi, c'est comme les coups de feu contre les loups. C'était un rappel à l'ordre et c'était un rappel à l'idée que ça allait être très difficile de s'innuer à travers cette espèce de soumission de tout le champ de nos existences à l'administration et à la technique, d'une certaine manière. Les deux étant des catégories de la conduite des sociétés qui étaient faites normalement, enfin qui devraient être faites philosophiquement pour nous aider à vivre. Et qui en fait nous contraignent, auxquels nous sommes obligés de nous soumettre et auxquels nous sommes parfois obligés d'échapper. C'est le grand problème. Enfin, on va pas refaire. J'ai l'impression que l'objectif de cette rencontre n'était pas de faire de la philosophie pour les classes de terminale, mais c'est ça la technique, c'est ça le problème de la technique et c'est ça l'imposture de la technologie contre la beauté originelle de la technique. Normalement, la technique, c'est une utilisation d'un outil au moment où vous en avez besoin. Alors que la technologie, c'est une permanente acceptation de l'intrusion permanente de ce dispositif technologique dans vos existences. L'administration, c'est pareil. Normalement, l'administration, c'est ce qui doit, c'est l'huile que l'on met dans les rouages d'une collectivité, et ça ne devrait pas être son grincement permanent.
il y a quelques passages en fait qui m'ont dont voilà enfin qui m'ont interpellé puisque notamment vous faites beaucoup de distinctions entre ce que vous pensiez avant et ce que vous pensez maintenant. Alors je me permets de vous citer sur deux passages en particulier. Il y en a un où vous dites attendez. Les ivrognes russes trinquent en affirmant que demain sera pire qu'aujourd'hui. Longtemps, je m'étais rangé à cette idée. Depuis ma chute, je me pénétrais du contraire, tout s'améliorerait. Et un peu plus loin, vous faites aussi ce rappel. Enfin, vivre me semblait le synonyme de s'échapper. Napoléon avait dit au général Caulaincourt, dans le traîneau qui le ramenait à Paris après le passage de la Bérézina, il y a deux sortes d'hommes, ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Du temps où je m'étais passionnément intéressé à l'Empire, jusqu'à prendre mon bain coiffé d'un bicorne, j'avais trouvé cette phrase définitive. Aujourd'hui, tordant mes chaussettes sur un banc de vase du Var, je pensais que l'empereur avait oublié sur une troisième colonne les hommes qui fuient. Sire, lui aurais-je dit, si je l'avais connu, fuir, c'est commander. C'est au moins commander au destin de n'avoir aucune prise sur vous. Je me posais la question de savoir si cette distinction que vous faisiez entre ce que vous pensiez avant et ce que vous pensez maintenant était due à quoi, en fait, à votre voyage et à ce voyage en particulier, ou au contraire, ce qui vous était arrivé à votre accident.
Mais d'abord, je ne distingue pas trop cet accident de ce voyage. Tout est dans tout, quoi. Enfin, le voyage était une sorte de prolongation de l'accident. D'ailleurs, il m'avait été chaudement recommandé par la médecin de me faire de la rééducation. Alors, bon, je ne pense pas qu'il l'entendait exactement dans ces termes-là, mais c'était une forme de rééducation que j'accomplissais. Ensuite, vous avez raison de souligner que je n'étais pas le même avant et après. Enfin, d'abord, physiquement, je n'étais pas le même. Et ensuite, évidemment que moralement, heureusement, d'une certaine manière, que ce genre de mésaventure vous met un petit peu de plomb dans la cervelle. Dans la mesure où on peut considérer que. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si on peut le considérer, mais on entend souvent dire, c'est une espèce de banalité, que toute mésaventure finit par avoir ses bienfaits. À toute chose, malheur est bon. dit le proverbe. Il y a toute une école philosophique de pensée visant à dire qu'on se nourrit de ces épreuves. Alors, j'ai jamais été très friand de ce genre de délectation du pire, mais je dois reconnaître que quand on est allongé longtemps sur un lit et qu'on ne peut plus se livrer à la vie frénétique qui était la sienne, on est obligé forcément de se méditer un peu, y compris sur les imbécilités qu'on a commises autrefois, quoi, enfin, avant son malheur. Alors je l'ai fait un peu, et puis oui, bien sûr, vous avez raison, j'ai été un peu transformé. La transformation, elle n'a pas été très radicale, mais simplement je me suis dit qu'il fallait peut-être cesser de considérer que la vie était une espèce de terrain d'excitation permanente visant à accumuler frénétiquement le plus d'expériences diverses et variées, ce qui était un peu le cas lorsque je voyageais beaucoup, comme ça, comme un hamster dans sa roue de plastique. Et puis je me suis dit qu'il était peut-être temps de ralentir un peu la machine, ce que j'ai fait un peu. C'est ça que que j'évoque dans ces phrases. Et ce que vous avez lu à propos des Russes qui disent « buvons car demain ce sera pire », c'est une espèce de posture face à la vie consistant à dire que de toute façon demain n'existe pas, qu'il faut jeter toutes ses forces, toute son énergie, toute sa psyché dans l'immédiateté. Et qu'on verrait que demain, de toute façon, est une illusion, un mensonge, et qu'on ne verra jamais le soleil se lever. Et c'est vrai que quand on a eu la chance d'échapper au pire après un accident comme ça, on se dit qu'au contraire, il faut peut-être considérer l'avenir avec un tout petit peu plus de prévention et d'intérêt. Voilà, enfin, grosso modo, si nous n'étions pas dans une maison qui est dévolue à la lecture, si je n'étais pas devant vous, je sais bien que ici, il ne faut pas se laisser aller à des propos grossiers, mais enfin, en gros, je suis devenu un peu moins con, quoi, c'est tout. Grâce à un bon coup sur la cafetière.
Et alors je reviens sur ce coup sur la cafetière, justement. Ce qui vous a fait, parce que on vous connaît, bien sûr, à travers vos récits, on sait que ce qui comment dire, enfin, on a l'impression en tout cas que ce qui vous anime, c'est justement le voyage, cette passion de l'aventure. Est-ce que vous pensez que c'est ça, c'est cette passion-là, cet amour-là qui vous a guéri ?
De l'aventure ?
Oui.
Qui m'anime ? Oui, bien sûr. Enfin, encore faudrait-il comprendre ce que c'est que la passion de l'aventure et définir le terme. Oui, moi je pense que c'est ça, c'est la passion de l'aventure. Si tant est que l'aventure soit ce que je crois qu'elle est, enfin ce que j'aimerais qu'elle soit, c'est-à-dire une espèce de force intérieure qui vous pousse vers quelque chose qui est à la fois inconnu, qui est très vital, qui est très énergétisant. Voilà, donc je crois beaucoup à ça et encore une fois, ça peut sembler paradoxal parce que je viens de vous dire que les choses avaient changé en moi, mais je continue tout de même à être attiré par cette mise en... Ce n'est pas vraiment une mise en scène de la vie, mais c'est ce fait de pousser des portes qui m'amènent vers des choses que je ne connais pas. Oui. Ça continue à être chez moi de l'ordre de la passion.
Je fais une petite parenthèse sur les chemins noirs parce que alors je reviens sur ce que vous nous disiez tout au début et je vous trouve pas très juste avec vous-même, en fait, puisque vous disiez que c'est la première promesse que vous avez tenue en marchant, en faisant ces chemins noirs, mais si je me souviens bien, ou bon, si je me trompe, dans les forêts de Sibérie, enfin, c'était une promesse aussi de partir vous isoler loin pendant des mois sur le lac Baïkal.
Oui, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais j'avais déjà répondu à, enfin, j'avais déjà tenu cette promesse-là, faite à moi-même. Mais elle était moins difficile, enfin, c'était une Robinsonnade, comme on rêve tous, c'est-à-dire moins une promesse que l'accomplissement d'un rêve, le rêve de la cabane, quoi. C'était d'ailleurs pas quelque chose de... J'ai jamais très bien compris pourquoi... on pouvait trouver bizarre de partir s'isoler dans une forêt en Sibérie. Ça n'est finalement que la transposition dans les taïgas au bord du lac Baïkal d'un penchant collectif que tout le monde partage systématiquement et qui est celui, je sais pas moi, du week-end qu'on va passer à la campagne, quoi. Enfin, je sais pas, au bassin d'Arcachon. Il me semble que tout le monde, on le sait d'ailleurs, que tout le monde vit selon cette oscillation consistant à travailler pendant la semaine et aller se reposer pendant le week-end. Ben, moi, c'est exactement ce que j'ai fait, sauf que ça a duré 6 mois. C'est-à-dire que ça, les choses que je faisais, que je fais d'ailleurs en général, ont toujours une expression un peu radicale, voilà, et un peu outrée. Mais dans le principe, cette isolation, cette rétractation dans une cabane du Baïkal n'était jamais que la forme un peu radicale de cette envie que nous avons absolument tous de prendre un peu de temps pour nous isoler, nous reposer et nous recentrer en nous-mêmes.
Alors pour revenir sur les chemins noirs, donc, comme je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, au début vous étiez seul et puis... Bon. Vous avez eu des amis qui après vous ont accompagné, notamment Cédric Gras et un autre. C'était une volonté de leur part ou c'est vous qui avez voulu continuer cette marche justement en dehors de la solitude ?
Non, là je suis incapable de répondre à votre question. Les choses que au cours de cette marche et au cours de ce genre d'aventure d'ailleurs et au cours de ma vie en général ne sont pas si précises et si programmées en fait. Je suis parti, j'ai fait cette traversée, et puis j'avais quelques camarades qui m'ont rejoint 2-3 jours, l'un dans le sud de l'Ardèche, l'autre dans l'Aubrac. Il est revenu en Mayenne. J'ai mon copain Thomas Gouasque, avec qui j'ai fait beaucoup de voyages et qui est photographe, qui m'a rejoint ensuite dans le Cotentin. Mon ami Arnaud Humann, qui vit au bord du Baïkal, qui lui est venu me voir dans l'Aubrac. Et puis Cédric Gras, qui est... vient de publier un livre consacré à la guerre d'Ukraine et qui lui est venu me rejoindre dans l'Ardèche. Voilà, non, c'est simplement que j'ai pas l'impression qu'il faille faire autre chose que vivre comme on l'entend lorsque on est en train de vivre ces aventures qui, encore une fois, ne me semblent pas être autre chose que des chapitres de la vie ordinaire. Alors du coup, bah, mes amis viennent avec moi lorsque je fais ce genre de diagonale.
D'accord. Au final, donc, ce pays que vous ne connaissiez pas ou que vous connaissiez peu, la France, donc, qu'est-ce qui vous reste de ce voyage ? Qu'est-ce que vous retenez de votre voyage ?
Alors, je ne vais pas répéter que la marque principale qui m'a saisi au cours de ce voyage, de cette traversée de la France, c'était cette très bizarre sentiment de vivre dans un pays forgé par des gens qui n'étaient plus là. Ça, c'est la première chose, mais je l'ai déjà dit. La deuxième, c'est que il y a eu un débat récent en France, très étrange, très malsain, très désagréable, très toxique, qui nous renvoie d'ailleurs à une... forme de dégradation profonde dans le pays et en Europe en général du langage, du verbe, de la parole. Vous vous souvenez tous de ce moment où il a été question de l'identité française. Alors à ce moment-là, on a vu les uns se lever contre les autres, les uns brandir des arguments extrêmement toxiques contre les autres qui ne voulaient pas qu'on en parle. Et tout ça était assez malsain parce que, à partir du moment dans une société historique où les mots deviennent des objets assez dont on considère qu'ils ne doivent pas être abordés, on a là l'impression qu'on file un mauvais coton. C'est pas du tout bon de lancer des anathèmes contre un certain nombre de mots. C'est tout à fait dommage. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça en traversant ce pays. Je partais d'une frontière, j'allais vers l'autre, et j'ai essayé de me dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans tous ces paysages qui défilent sous mes pas, qui appartiennent à une communauté ? Car c'est ça, l'identité française. Je me suis demandé ça. Et j'ai eu la réponse, notamment en lisant l'introduction d'un ouvrage considérable et superbe qui s'appelle « L'identité de la France » de Fernand Braudel, l'historien de l'école des annales de l'école de Bloch du début des années 1980. Il a sorti ce livre, L'identité française, en 84, je crois. D'ailleurs, sans que le titre ne crée aucun remous à l'époque, c'était il y a 40 ans. L'identité française de Braudel. Et Braudel, dans son livre, explique que, au fond, ce qui caractérise la spécificité de la France, c'est que sur un espace de 800 km d'est en ouest et de 1000 km du nord au sud, on est là dans une sorte d'accumulation effroyable, c'est l'expression qu'il emploie, et de morcellement extravagant, autre expression qu'il emploie, de territoire, de climat, de sol, de relief. Voilà une première spécificité qui fait que sur ce tout petit intervalle géographique, on peut avoir des flamants roses, des salamandres, des cigognes, des loups, des ours même dans les Pyrénées, de la lavande, des palmiers, des navets, des betteraves de Picardie et des choux de Bretagne. Enfin voilà, il explique ça, l'extravagant morcellement, auquel s'ajoute, dit Braudel, je continue à vous résumer son introduction, auquel s'ajoute une accumulation de passé telle qu'elle n'existe nulle part ailleurs, dit-il. C'est-à-dire, tout à coup, l'histoire est venue se sédimenter, se stratigraphier sur le territoire, avec tous les épisodes que nous connaissons quand on a étudié l'histoire. Et Braudel s'émerveille de la possibilité d'avoir pu créer une forme d'unité dans cette chose qui n'aurait normalement dû naître que le ferment d'une guerre civile permanente. Il dit normalement, quand on décrit la France, son histoire et sa géographie, on décrit un baril de poudre qui devrait exploser en permanence. Alors évidemment, ça a beaucoup explosé. C'est d'ailleurs en permanence en ébullition. Il n'empêche qu'il y a eu une unité. Une unité d'ancien régime, une unité républicaine, etc. Et il s'interroge, et il s'émerveille, et il parle du miracle français dû à la possibilité de contenir ces aspects disparates. Ça, c'est la thèse de Braudel. Et lorsque vous traversez la France à pied à la vitesse de 5 km à l'heure, qui est pourtant une vitesse très lente, vous ressentez ces deux disparités, celle horizontale de la géographie et celle verticale de l'histoire, du temps. Et vous la voyez de vos yeux vus, elle est incarnée sous vos yeux, parce que tous les jours vous voyez un paysage qui est totalement différent, un terroir, une géographie qui change, qui est même parfois vos antipodes, et puis parce que vous voyez les marques, les échos d'un passé profond qui saute à vos visages. Alors, voilà, c'est une sorte de confirmation de cette intuition que j'avais, de ce qui est magnifiquement formulé dans les débuts de l'identité de la France de Braudel, et ce qui, franchement, si on abordait les choses comme ça, en tenant un débat de manière apaisée, ne devrait pas provoquer l'hystérie dans l'un et l'autre camp des débatteurs. C'est assez étonnant qu'on accepte absolument de parler de toutes les identités, de l'identité tibétaine. Il y a même une sorte de podium des identités où on place plus ou moins haut certaines identités selon les modes de l'époque. Alors il y a eu une époque où l'identité tibétaine a eu un grand succès. Aujourd'hui, c'est l'identité syrienne. Mais alors l'identité française, il ne faut pas en parler parce que forcément, ça ramènerait des espèces de boue sombre ou de ferments totalement toxiques comme dans un marécage que l'on entourait avec un bâton de sorcier. Mais moi, il ne me semble pas. Et je crois que la vision géographique et historique permettrait au contraire d'apporter une vision appuyée sur la culture et l'espace et qui nous prémunirait de toute conversation toxique. Voilà ce que j'ai retenu de cette marche-là. Puis la deuxième chose, c'est que j'ai confirmé que la marche avait des effets profondément bénéfiques, puisqu'au bout de 3 mois, je me suis senti remis debout. J'ai eu l'impression d'être remis debout après avoir commencé à être remis en marche. Ça, c'était un peu bizarre, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Et puis surtout, je me suis rendu compte que cette idée d'essayer de tracer une analogie un peu scabreuse entre le chemin noir intérieur et les chemins noirs de la forêt française, de la campagne, était tout à fait valable parce qu'il suffit finalement de déployer des cartes en nous et d'y trouver les chemins de traverse pour réussir à vivre selon les termes de l'existence silencieuse, intime, qui parfois permet de nous guérir de l'espèce d'épilepsie qui est en train de monter à la surface de cette planète.
Ce qui est beau, c'est, je sais pas si c'était inconscient à la base, mais c'est que ce chemin noir intérieur, cette réparation entre guillemets, vous l'avez faite chez vous, dans votre propre pays. Est-ce que vous considérez là maintenant avoir vu ce que vous vouliez voir de la France, ou est-ce que vous pourriez plus tard envisager de faire peut-être la diagonale dans l'autre sens?
Alors d'abord, il faut préciser que la diagonale dans l'autre sens, c'est-à-dire par exemple en partant de Bordeaux et en allant jusqu'en Alsace, c'était considéré par la DATAR, qui était un institut administratif d'aménagement du territoire et des régions, c'était considéré comme une diagonale hyper rurale dans les années 70, il y a 40 ans. Ça s'appelait même la diagonale du vide, grosso modo, entre le Poitou et la Meurthe-et-Moselle. Alors, c'était selon des critères démographiques. Donc, on pourrait. Et d'ailleurs, il y a un écrivain magnifique qui avait marché le long de cette diagonale que vous venez de mentionner, qui était Jacques Lacarrière. Je crois que c'est en 72, en 71, qu'il est parti à pied de l'Alsace. Il a marché comme ça jusqu'au bord de la mer. Il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Chemin faisant, où il raconte voilà, son enchantement, son émerveillement. Peut-être était-il un peu moins sombre que moi. Jacques Lacarrière, il était tellement irrigué du soleil, de la Grèce et de l'Antiquité que dès qu'il voyait une petite perdrix s'envoler d'un buisson, il croyait que c'était la déesse Athéna en train de... Alors évidemment, c'était des bucoliques, c'était beaucoup plus virgilien. On sentait l'homme se promener avec son Virgile sous le bras. Moi, j'essayais de m'extraire du labyrinthe, alors peut-être que c'est un peu plus... Grand. Moi, je voyais davantage les ronces et lui davantage le muguet. Voilà, ça c'est le livre de la carrière. Non, mais pour répondre à votre question précisément, non seulement je vais continuer beaucoup à voyager en France, mais je le fais toujours parce qu'il se trouve que moi j'ai une passion qui a viré à l'obsession depuis quelques années, qui est l'escalade de rochers. Je sais que ce n'est pas tout à fait la discipline la plus courue ici dans le Bordelais, étant donné que le relief évidemment ne prête pas à ce genre d'action, mais je vais beaucoup dans tous les endroits qui se prêtent à ces jeux-là, les calanques de Marseille, les Alpes, enfin, dès qu'il y a une paroi, dès qu'il y a du vide, dès qu'il y a une verticalité, j'y vais pour grimper. Donc je continue beaucoup à labourer la France à la recherche des endroits où je peux grimper.
Ah oui, vous continuez l'escalade ?
Ah oui, je continue, mais avec des formes plus sérieuses. Enfin, je mets une corde, quoi, en gros.
D'accord. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous vouliez nous lire un extrait. Je ne sais pas si...
Oui, je veux bien vous lire un extrait qui justement correspond à ce que je vous disais à propos du repli intime, du repli intérieur. C'est très court. Il y avait eu des milliers de manières de fuir le monde. Un homme du Paléolithique avait dû initier le mouvement. Je l'imaginais se lever, quitter le halo du feu et disparaître à jamais dans la savane, menacé et libre. Plus tard, l'histoire avait multiplié les expérimentations. Port-Royal était la façon la plus noble et la plus accomplie de prendre congé. Le monastère cistercien, la plus aisée. Tout était déjà en place et les repas servis à heure fixe. Le cabinet d'études, la plus modeste. Il suffisait d'aimer l'érudition et d'avoir un bureau. L'atelier d'artiste, la plus civilisée. On se retirait et on laissait une œuvre à la postérité. Le refuge de montagne, la plus hédoniste. En cas d'ennui, on s'envoyait une face nord pour la beauté du geste. La grotte d'ermite, époque bouffeur de lézards du IVe siècle, la plus doloriste. La bergerie dans les alpages, la plus romantique. La cabane dans les bois, la plus juvénile. Le fortin colonial aux avant-postes de l'Empire, la plus classe. La commune, rejouée dans un corps de ferme, la plus risquée, car l'État n'aimait pas les îlots de contestation potentielle. Tous les reclus avaient emprunté leur chemin noir vers les domaines intérieurs de la solitude. Ils refusaient l'accumulation des objets, ils s'opposaient à la projection du monde sur un écran. Les anarchistes de Tarnac, les Starets de la vieille Russie et les méharistes de l'AOF n'auraient peut-être pas accepté de se rencontrer et de s'adresser la parole. Pourtant, ils se ressemblaient. Peupler le désert ne leur déplaisait pas, ils demeuraient maigres et chacun savait que l'ennemi surgissait parfois du vide. Voilà. Merci. Donc ça, c'est vraiment le chemin noir historique, quoi. C'est un vieux penchant, ce que l'écrivain Ernst Jünger appelait le recours aux forêts. Et il précisait d'ailleurs dans son traité du rebelle qu'il ne fallait pas entendre l'expression au pied de la lettre et qu'on pouvait recourir aux forêts sans postuler un poste à l'ONF, quoi, mais simplement en se rétractant dans l'intimité, je sais pas, de tout ce que je viens de citer là, d'un appartement, d'un atelier, d'une ville, d'une promenade, d'un lieu qu'on connaît, et de soi-même d'ailleurs. Le recours aux forêts, c'est simplement l'identification d'une géographie où on peut échapper à ce dispositif techno-marchand de soumission permanente aux sollicitations de ce qui n'est pas soi-même, quoi.
Merci en tout cas pour cette lecture et pour toutes ces informations. Alors, j'ai une dernière question à vous poser avant de laisser les questions au public. C'est sur la façon dont vous avez écrit ce récit. Est-ce que vous avez pris des notes en chemin ou est-ce que vous l'avez écrit après, de mémoire ?
Non, je prends des notes en chemin tous les jours, mais en fait, je ne fais que faire ce que je fais tout le temps. Depuis que j'ai 20 ans, je tiens un journal intime, quoi. Un carnet de assez anecdotique d'ailleurs, parce que on pourrait faire une longue conversation sur le journal intime, qui est un genre littéraire que j'affectionne particulièrement. Il y a des journaux intimes qui sont des journaux de l'élaboration de l'écriture en devenir. Il y a des journaux intimes qui ne sont finalement que des tentatives de faire des mots, de formuler des idées. C'est le journal de Jules Renard, par exemple, qui est un merveilleux journal, mais qui n'est pas vraiment un journal de lui-même. Ce n'est pas un journal intime, le journal de Jules Renard. Ça ne devrait pas s'appeler journal intime. C'est un recueil merveilleux d'aphorismes, d'idées, de portraits. C'est ce que les Anglais appellent les miscellanées, en fait, davantage qu'un journal intime. Moi, c'est un pur journal anecdotique. C'est comme j'ai une vie assez agitée, je rencontre beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses, donc je prends note de ce que j'ai fait. Et comme je sais que ma mémoire va littéralement être une entreprise de démolition et de désagrégation de toutes choses, je prends le greffe. C'est comme au tribunal, vous savez, le greffe. Je prends le greffe de ce que je fais dans mes carnets et ce que je fais tout le temps. Même là, je vais raconter, par exemple, cette conversation à la table de chez Mola, dans mon journal. Et bien voilà, je raconte des faits qui n'intéressent que moi, qui n'ont aucun intérêt d'ailleurs. Et lorsque je voyageais en chemin, je prenais mes notes, et avec lesquelles j'ai recomposé ce récit. Mais en conservant la forme chronologique, puisqu'il s'agissait d'un itinéraire, avec une tentative de, sinon de métamorphose, le mot est un peu grand, mais en tout cas de reconquête intérieure. Donc je voulais qu'il y ait ce fil chronologique et cet itinéraire, ce défilement. C'est pour ça que j'ai conservé la forme du journal.
D'accord. La suite, vous avez déjà prévu votre prochaine balade ?
Oui, j'ai des projets, beaucoup d'ailleurs, au long cours, d'autres plus précis et plus rapides. Je pars là dans 2 semaines au Kurdistan irakien dans le cadre de projets associatifs avec un organisme qui s'appelle la Guilde. Et la Guilde est en train de monter un certain nombre de radios et de cinémas dans les camps de réfugiés en Irak, des réfugiés kurdes, dans la zone de Erbil, du Kurdistan irakien. Vous savez que la coalition a lancé la contre-offensive sur Mossoul. Il se pourrait, si tout se passe bien, que l'État islamique soit défait à Mossoul dans les jours qui viennent. Mais à ce moment-là, des cohortes de réfugiés vont arriver dans les environs d'Erbil. Et une fois qu'ils ont eu l'approvisionnement en eau, en nourriture, en logement, nous, notre association s'occupe de créer les conditions de la vie, en fait, de l'installation dans ces endroits-là, et notamment avec de l'éducation et tout le système de radio. Voilà, alors je pars là-bas pour cet organisme dans quelques jours, à la fin du mois d'octobre.
On va vous souhaiter bon courage, alors. Bon voyage aussi. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions.
Merci.
Et j'espère que vous reviendrez très bientôt nous voir pour le prochain.
Merci.